Radio Kapi.
Le journal Belinda Bosuma. Fusillade hier à Kassindi au Nord Kivu. La chef de la MONUSCO annonce l'arrêt des casques bleus auteurs de cet incident qui a causé 2 morts et 15 blessés. Elle précise que les contacts sont établis avec les pays d'origine de ces militaires afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais. Prolifération des stations-service à travers la RDC. Le gouvernement opte pour l'obtention d'un moratoire sur la délivrance des titres des stations-service et la suspension des chantiers en cours. C'est l'une des mesures proposées par le ministre des Hydrocarbures à la dernière réunion du Conseil des ministres. Et puis, ce matin, nous recevons Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de maintien de la paix, en visite de travail en RDC. Il revient notamment sur les manifestations contre la MONUSCO ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO s'est dit profondément choquée et consternée par le grave incident survenu hier à Kassindi, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Au cours de cet incident, des militaires de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, de retour de congé, ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcé le passage. Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessés graves. Madame Bintou Keïta annonce que ces militaires sont déjà aux arrêts et que les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui a d'ores et déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises. On écoute Madame Bintou Keïta, jointe par Alain Irungu-Shinge.
Ce qui s'est passé est absolument tragique et ne peut être justifié et pas du tout acceptable, surtout dans le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant et en plus par rapport à notre mandat de protection des civils. Le premier devoir que j'ai, et au nom de toute la mission et aussi avec la délégation de Monsieur Lacroix, c'est que nous devons vraiment présenter nos sincères condoléances pour ceux qui ont perdu la vie dans cet incident tragique et aussi pour souhaiter que ceux qui ont été blessés et sérieusement puissent se rétablir avec les meilleurs soins de la meilleure qualité pour un rétablissement plénier. Les mesures qui ont été prises très immédiatement, donc ces soldats ont été mis aux arrêts par le commandant de la force, parce que ce qui a été fait, et quand on regarde les images photos et vidéos, c'est absolument pas acceptable de voir la manière dont ça s'est déroulé.
La chef de la MONUSCO a précisé que les contacts ont été également établis avec le pays d'origine de ces militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée urgemment, ce avec la participation des victimes et des témoins, afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais. Le secrétaire général de l'ONU, quant à lui, souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements. Il soutient la décision de sa représentante spéciale en RDC de la mise en détention du personnel militaire mise en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête. Antonio Guterres dit prendre note du contact établi par les Nations Unies avec le pays d'origine de ces militaires afin qu'une procédure judiciaire soit initiée urgemment avec la participation des victimes et des témoins afin que des sanctions appropriées soient prises. Pour sa part, le gouvernement congolais dit condamner et déplore vigoureusement cet incident malheureux dont le bilan provisoire fait état de 2 morts et 15 blessés. Il a fait savoir dans un communiqué publié hier par le ministre de la Communication et des Médias. Dans ce communiqué, le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et exprime sa compassion aux blessés. Il leur assure que des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ce drame. D'autres précisions sur ce communiqué avec Alain Rungu-Shinge.
Le gouvernement, conjointement avec la MONUSCO, a initié une enquête pour établir les responsabilités, connaître les motivations d'un tel forfait et obtenir des sanctions sévères à l'encontre des casques bleus à la base de ce drame, qui sont du reste déjà aux arrêts, indique le communiqué. Le gouvernement souligne que les casques bleus concernés ne pourront plus de ce fait faire partie des contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force onusienne de la RDC. Enfin, le gouvernement appelle au calme la population congolaise en général, et particulièrement celle de Kassindi et de toute la province du Nord Kivu. Il assure qu'il veillera à ce que pareil incident ne se reproduise plus.
Par ailleurs, la délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivée hier à Butembo. Elle a rencontré la société civile, les groupes de pression et les familles des victimes de ce drame. Daniel Asselo a appelé la population au calme et assuré que les recommandations formulées par cette dernière sont en étude par le gouvernement. Pour sa part, le président de la coordination urbaine de la société civile, pasteur Maté Sanane, appelle la population à vaquer à ses occupations quotidiennes à partir de ce lundi. Et puis, 3 ans après la fermeture de la base de la MONUSCO de Dungu dans la province du Haut-Uele, que sont devenues les installations de la mission onusienne dans le chef-lieu de ce territoire? Pour s'en rendre compte, Radio Okapi s'est rendu dans la zone pour se faire une idée. Notre reporter est allé visiter l'ancien quartier général de la MONUSCO à Dungu. Je vous propose de suivre ce reportage de Jean-Claude Loki.
C'est le 11 août 2019 que la MONUSCO avait plié bagages de Dungu. C'est après une cérémonie officielle de remise aux autorités locales des bâtiments et d'autres matériels dont se servait la mission onusienne pour son fonctionnement. Parmi ces biens cédés aux autorités locales, il y avait entre autres les maisons préfabriquées où fonctionnait le quartier général de la MONUSCO à Dungu. Aujourd'hui, cet endroit abrite l'Institut supérieur de technique de développement. Et sur place, nous avons rencontré le chef des travaux Jean Anamango, directeur général de cette institution qui reconnaît que ces maisons laissées par la MONUSCO rendent d'énormes services à la communauté.
Ça aide la communauté parce que c'est une grande agglomération et il y a aussi d'espace. C'est Corimé qui nous sert pour d'abord les auditoires, ensuite aussi ça nous aide aussi comme des homes pour les étudiants. Et nous avons aussi des bâtiments administratifs pour l'institution, en tout cas c'est suffisant.
Certaines pièces sont délabrées à cause des intempéries, d'autres n'ont plus de fenêtres, plus d'installations électriques. Le responsable de cette institution publique avoue qu'il est difficile de remettre en service toutes les salles faute de moyens. Il sollicite le concours du gouvernement pour réhabiliter ce site qui forme des étudiants venus de plusieurs coins du pays et même de l'étranger. Parmi d'autres réalisations de la MONUSCO dans cette région, on peut citer la réhabilitation de plusieurs axes routiers dont certains sont encore dans un bon état. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre. Prolifération des stations-service à travers le pays. Le gouvernement a adopté un train de mesures proposé par le ministre des Hydrocarbures. C'était lors de la 62e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi à Kinshasa. Il s'agit notamment de l'obtention d'un moratoire sur la délivrance des titres des stations-service et la suspension des chantiers en cours. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu lu par le ministre Patrick Muyaya de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Rong.
À la date du 25 juillet 2022, les données recueillies font état de l'existence dans la ville de Kinshasa de 245 stations-service, dont 204 opérationnelles, 21 en construction et 20 en arrêt. La situation est quelque peu incontrôlée, a reconnu le ministre. Face à cela, le ministre des Hydrocarbures a proposé quelques mesures, notamment l'obtention d'un moratoire sur la délivrance des titres des stations-service en attendant l'harmonisation de vues des ministères sectoriels concernés. Il s'agit ici des autorisations de bâtir et de permis de construire. La suspension des chantiers en cours en attendant la vérification au cas par cas. Une mission d'inspection dans tout le pays. Et l'accélération de travaux d'élaboration des actes d'exécution de la loi portant régime général des hydrocarbures et son règlement. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté.
Entre-temps, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la prolifération des stations-service inquiète plus d'une personne. Certaines sont construites en dehors de toute norme et sans aucune mesure de sécurité. Cette question a une fois été au centre des discussions à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Plus d'un louchois redoute la catastrophe en cas d'un incendie et tire la sonnette d'alarme en direction des autorités du pays. Jean Gandou pour les détails.
La situation est plus qu'inquiétante, tenez, dans un rayon d'environ 5 km², soit de l'entrée de la route Kinsevere passant par le boulevard Moussiri, les avenues Lumumba, Likasi, Kamanyola, route du Golfe, de la Libération, Biaï prolongée, des églises et la route Kassapa, ce sont plus de 40 stations-service qui sont visibles. D'autres sont en pleine construction. À d'autres endroits, ces stations-service sont érigées les unes en face des autres. Pire encore, il y en a qui sont construites à côté des écoles et même même dans les quartiers résidentiels, sans aucune précaution de sécurité. L'anarchie dans ce domaine a été aussi évoquée par la Fédération des entreprises du Congo au nom des entreprises du secteur pétrolier dans une lettre adressée au ministre des Hydrocarbures au mois de juin dernier. C'est ainsi que la FEC sollicite du gouvernement notamment le renforcement du rôle de l'administration des hydrocarbures en tant qu'autorité de tutelle, notamment en matière d'octroi d'autorisation pour la construction des infrastructures liées à l'exercice de la profession pétrolière. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri. La ville de Bunia a ouvert samedi la première boutique de l'entreprise textile hollandaise Vlisco, spécialisée dans la vente des marques d'étoffes imprimées wax, une initiative d'une fille du terroir. Pour les responsables de marketing de cette société, c'est dans le but de rapprocher leurs produits des consommateurs au regard de la forte demande en provenance de l'Ituri. Des habitants de Bunia estiment qu'ils pourront se procurer des pannes de Vlisco sur place au lieu de passer leurs commandes à Goma ou à Kinshasa. Ça, c'est un reportage de Jean-Claude Lokidile.
Après des supermarchés qui ouvrent leurs portes dans la cité de Bunia, c'est le tour cette fois de maisons de vente de textiles de voir le jour. Située en face de la tribune officielle de Bunia, cette boutique offre une gamme variée de produits Vlisco. La province de l'Ituri, qui est parmi les grands centres commerciaux qui consomment les produits de cette entreprise, nécessitait un point de vente qui soit accessible aux clients. Eddy Ediam est le directeur de marketing de Vlisco en Afrique centrale.
Depuis toutes ces années, en Ituri, nous avons un gros marché de consommation que nous devons absolument rapprocher la marque de ce consommateur d'ici avec une chaîne d'approvisionnement qui soit régulière.
Certaines femmes interrogées saluent l'ouverture de cette maison des commerces à Bunia, ce qui va leur permettre d'acheter ces pannes de marque wax sur place au lieu de les faire venir de Goma ou Kinshasa. Pour d'autres, les consommateurs de l'Ituri pourront désormais se passer des pannes pirates de cette entreprise qui circule sur le marché. Nana Ngalula.
Quand on voulait s'habiller en Vlisco, on envoyait toujours l'argent à Kinshasa. Mais maintenant, c'est dispo. Chaque nouveauté, chaque arrivage, nous sommes satisfaits de le voir sur place à Bunia.
De leur côté, les opérateurs économiques sollicitent des autorités un accompagnement en termes d'assouplissement des taxes pour encourager ces genres d'initiatives. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais a lancé depuis octobre dernier le programme de développement local de 145 territoires. Radio Capi commence une série de reportages pour aider à mieux comprendre ce programme. Il est financé principalement par l'État congolais à hauteur de plus d'$1,660 milliards dans le but d'accroître l'efficacité des politiques publiques et de réduire rapidement la pauvreté et les inégalités spatiales en RDC. Pour mettre en œuvre ce programme, 3 agences d'exécution ont été retenues dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, le Bureau central de coordination BCECO, ainsi que la cellule d'exécution en faveur des États fragiles, CFF. Comment ces agences peuvent-elles interagir dans ce vaste programme? Élément de réponse avec Esther Ndalafina.
Pour permettre à ces 3 agences d'interagir convenablement dans ce vaste programme de développement local des 145 territoires de la RDC, le gouvernement congolais, à travers son ministère de plan, a délimité les champs d'action de chaque agence d'exécution de la manière suivante. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle va exécuter ce programme dans 9 provinces avec 54 territoires. Il s'agit des provinces de Bawele, Tchopo, Mongala, Kasai, Maniema, Tanganyika, Sud Kivu, Sankuru, ainsi que la capitale Kinshasa. Tandis que le bureau central de coordination va exécuter ce programme dans 9 autres provinces qui comptent 48 territoires. Il s'agit du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami, Lualaba et le Nord Kivu. La cellule d'exécution en faveur des États fragiles, CFF, sera chargée plutôt de travailler dans cette province avec 43 territoires. Il y a le Kwango, le Kwilu, le Nord et le Sud Kivu, l'Équateur, Maïndombe et Congo Central. Quelles sont les agences qui sont déjà installées dans les provinces où elles vont exécuter ce programme de développement local de 145 territoires? Restez donc branchés pour suivre la réponse dans nos prochaines éditions.
Kasaï Oriental, quelques promoteurs des écoles privées agréées s'insurgent contre le paiement des frais de certification des bulletins. Ils pointent du doigt la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique d'avoir exigé 1000 francs congolais pour chaque bulletin comme frais de certification, en plus de ce qui avait été exigé à tous les établissements primaires publics et privés de la République démocratique du Congo. Écoutez à ce sujet Badibangan Sampuka, promoteur du complexe scolaire Bassambi.
Les établissements établissements scolaires se sont déjà acquittés, suivant l'arrêté du gouverneur de province, des frais de Minerval de l'EPST et aussi des bulletins. Chaque établissement a payé 3 500 environ et 1 000 francs de bulletins. Voilà que, après la proclamation ou avant la proclamation, les divisions provinciales éducationnelles demandent encore aux établissements de payer 1 000 francs par élève de frais de certification de ces mêmes bulletins. Nous pensons que c'est paradoxal parce que le ministère de l'EPST ayant instauré le bulletin unique national pour tous les établissements de l'éducation de base primaire a cherché une reconnaissance officielle de ces bulletins. La façon dont on les a même imprimés et puis forgés montre que ces bulletins sont certifiés.
Contacté, le directeur provincial de l'EPST Kassai-Oriental rejette ces allégations. Joseph Mouikeou précise que la division n'a pas fait payer des frais supplémentaires, mais plutôt les frais repris sur la note circulaire du ministère de l'EPST.
Actualité internationale.
La coalition au pouvoir au Sénégal revendique la victoire dans la majorité des départements sénégalais après les élections législatives d'hier dimanche. Elle bénéficierait ainsi d'une courte majorité au Parlement, un succès contesté par l'opposition qui parle de majorité préfabriquée. Ces élections législatives ont valeur de test pour l'opposition qui souhaite freiner les ambitions du président Macky Sall. En Ukraine, les frappes russes se multiplient, en particulier sur Mykolaïv, tandis que le premier chargement des céréales ukrainienne quitte ce lundi matin le port d'Odessa. La veille, un drone explosif a blessé 6 personnes au quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix. Il est en visite de travail en RDC. Dans une interview samedi, il est revenu sur les manifestations contre la MONUSCO ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants, ainsi que les prochains objectifs de la mission qui constituent des préalables majeurs pour son retrait définitif de la RDC. Jean-Pierre Lacroix s'entretient avec Pierrot et la Mégie.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez au Congo dans un contexte particulier avec des manifestations contre la MONUSCO. Quelle est la mission principale de cette visite?
D'abord, il s'agit d'exprimer notre solidarité avec nos collègues des Nations Unies, nos collègues de la MONUSCO. Évidemment, rendre hommage aux 4 soldats et policiers qui ont perdu la vie et aussi associer à cet hommage les victimes congolaises de ces violences.
Y a-t-il des leçons que les Nations Unies ont tirées de ces incidents?
Il est important de tirer les leçons de ce qui s'est passé, s'assurer que nous continuerons dans le système des Nations Unies à travailler dans la plus totale unité. Et c'était le message qui est ressorti de ma réunion avec les collègues des agences que je viens de rencontrer. Et puis, parler avec les autorités congolaises, examiner les moyens par lesquels nous pourrons à la fois éviter de voir se reproduire ces incidents tragiques et surtout mieux travailler ensemble.
Quels devraient être les prochains objectifs de la mission?
Nos objectifs, c'est d'abord pour ce qui concerne la MONUSCO, le retour de l'autorité de l'État partout permettra à la MONUSCO de partir. Et nous souhaitons que les conditions soient réunies, et notamment le retour de l'autorité de l'État pour que la MONUSCO puisse avoir terminé sa mission le plus vite possible et laisser la place à d'autres formes de soutien international. Et dans ce contexte, il importe que nous redoublions d'efforts en transparence, en liaison avec les autorités, que chacun fasse son travail. Il y a du travail de notre côté, il y a du travail de la part des autorités congolaises, elles le reconnaissent d'ailleurs, que nous communiquions aussi de manière unie et coordonnée, que nous luttions de toutes nos forces contre les messages de haine, les fake news, la désinformation. Et puis bien sûr, comme c'est une crise qui a plusieurs niveaux, un niveau régional important aussi, j'ai souligné l'importance de soutenir les efforts régionaux en cours, à la fois dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, processus de Nairobi, aussi les efforts menés sous l'égide de l'Angola, que ces efforts se traduisent par la réalisation concrète des mesures qui ont été prises et décidées, notamment en ce qui concerne l'importance du désarmement des groupes armés, pour lequel il y a aussi le programme de PDAR. RCS au niveau du Congo, le déploiement de la force régionale, la mise en place ou le renforcement d'un mécanisme de sécurité, de vérification comme cela a été initié lors des réunions des chefs d'État à Luanda. Et puis de manière plus fondamentale, la restauration de la confiance au niveau régional qui passe par l'approfondissement du dialogue entre les autorités de ces différents pays.
Au regard de tous ces défis, la MONUSCO peut-elle le seul y faire face?
Donc il y a tout un ensemble de choses qui sont étroitement liées les unes aux autres. Nous comptons sur nos partenaires, à la fois les partenaires régionaux, mais au-delà aussi, tous les États membres et les organisations qui peuvent soutenir les efforts d'apaisement pour passer des messages. D'ailleurs, il y a beaucoup de partenaires qui s'impliquent dans cet effort, qui font passer des messages nécessaires. Et je crois que la synergie, la coordination entre tous les acteurs internationaux, parallèlement à la nécessité de notre synergie et de notre coordination et de la transparence avec les autorités nationales, tout ça est extrêmement important. Voilà en quelques mots les messages, mais en tout cas, nos remerciements, notre solidarité au personnel des Nations Unies, à nos collègues, notamment nos collègues dans l'Est, dans la région de Goma, tous ceux qui ont été victimes de ces violences qui aujourd'hui évidemment sont préoccupées par ces menaces en termes de sécurité, et puis une pensée pour toute la population congolaise qui souffre encore davantage à cause de ces violences.
Jean-Pierre Lacroix, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.